Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi. On est avec vous jusqu'à 15h, comme chaque jour, du lundi au vendredi sur RMC, RMC Story. On est avec Alfred Orange, Laurent Dandrieux. Nous sommes avec Emmanuel Dancourt et Pierre Rondeau. Et puis on vous attend nombreux, tiens, au 32-16 pour parler du chiffre du jour. 67% de Français disent souffrir d'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est quoi? C'est une peur liée au changement climatique qui est de plus en plus marquée chez les jeunes, Alfred Orange.
Oui, ça a été donc quantifié, l'éco-anxiété. C'est un terme qui fête ses 25 ans pour... Pour la première fois il y a 25 ans, on a inventé ce thème pour décrire cette peur liée au changement climatique provoquée par ces bouleversements actuels ou bien par des menaces qui pèsent sur l'environnement. Voilà pour cette définition complète. Au-delà de cette peur, ce qui interpelle dans ce sondage, ce sont ces 34% de gens, une personne sur trois, qui estiment que ces catastrophes climatiques influent directement sur leur morale ou leurs émotions au quotidien. Et les plus exposés, ce sont les femmes de moins de 35 ans, d'après ce sondage. Pourquoi elles? Eh bien, une chercheuse, Charline Schermeber, avance une explication chez nos confrères de Néon. Les femmes ressentent davantage de responsabilités, surtout les mères de famille qui n'agissent pas pour elles, mais pour leurs enfants, ce qui accentue le sentiment de culpabilité. Dernière donnée intéressante sur le profil de ces éco-anxieux, parce qu'il y a ces jeunes qui sont aujourd'hui à qui on appelle à faire grève et qui sont donc en train de manifester en ce moment même. Oui. Ce sont avant tout des citadins issus de familles de cadres. Voilà pour le profil type de ces éco-anxieux.
En tout cas, en ce qui concerne la grève, on sera dans un instant avec Marie Dariussec, la journaliste qui sera notre invitée. C'est elle qui a appelé Marie Desplechin, pardon. C'est elle
ah oui,
qui a
appelé. Non, mais non, c'est pas les mêmes.
Marie Desplechin qui a appelé ces jeunes à manifester. Enfin, je remarque quand même que toutes les manifestations de jeunes, c'est toujours le vendredi. On ne sait pas pourquoi.
Oui.
J'ai une manif le mardi et le jeudi.
Je vais vous le dire.
Ah ben moi, je le sais aussi, les
semaines universitaires, ça arrête le jeudi.
Ah oui, ça doit être ça.
C'est pour ça que vous avez les soirées étudiantes le jeudi. Jeudi soir, parce que le vendredi, ils ne travaillent pas.
Et puis comme c'est pratique avant le week-end. Bon, enfin bon, bref, en tout cas, on sera avec Marie Desplechin dans un instant. Cette éco-anxiété qui touche tant les Français, est-ce que c'est le mal du siècle ou une tendance de bobo? Je vais commencer avec vous, Emmanuel Dancourt. Et je commence avec vous parce que il y a un an, quand on s'est découverte sur ce plateau d'Estelle Midi, vous n'étiez pas du tout écolo, on ne parlait jamais de ça. Et là, tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé chez vous, mais là, c'est la nouvelle Sandrine Rousseau quand même. C'est Greta Thunberg et Madame Corrie. Qu'est-ce qui s'est passé?
Plus sympathique quand même.
Alors, il se passe deux choses, et je vais vous dire la totale vérité. Il se passe déjà que je vis à la campagne et que, honnêtement, depuis un an, je vois une dégradation que je n'avais pas vue avant, que je vois de mes yeux, moi, et que dans mon village, qui est un village très écolo, il n'y a pas de pesticides, mais depuis des années, on enherbe avec des fleurs sauvages magnifiques, etc. D'un seul coup, cette année, il y a vraiment eu un virage dans mon tout petit village de Bourgogne, 140 habitants, avec plus de vaches que d'habitants, où j'ai vu la terre se dessécher, j'ai vu les cultures ne pas reprendre, j'ai vu les animaux souffrir. Donc il y a déjà et puis il faut que je vous dise que c'est quand même que l'une de mes meilleures amies s'appelle Fanny Agostini et que je suis à bonne école constamment jour après jour parce qu'elle est très très pointue sur ces questions-là. Ouais, voilà. Et qu'elle a travaillé ici Fanny. Et qu'elle m'alerte, et c'est vraiment à elle que je vois ma conscience écologique. Et donc voilà, donc elle m'envoie des vidéos, des tutos, Aurélien Barraud, François Gémen, et ça a forger ma conscience. Et aujourd'hui, ce que je pense, c'est que si on n'est pas anxieux, c'est que sérieux, on n'a pas compris, quoi. On est dans le déni. Vous souvenez de Don't Look Up, tu parlais de Netflix tout à l'heure. Mmh. On s'est moqué des personnages de Don't Look Up. Et en fait, moi, ça m'a, ce film, il m'a complètement chopé au cœur en me disant, mais c'est exactement ça. On s'aveugle, on ne voit pas. Et peut-être que parce que moi, je suis en la campagne, je le vois un peu plus. Mais aujourd'hui, c'est du déni que de ne pas comprendre vers quoi on va.
Non, mais
vraiment. Donc, oui, je suis devenue écolo, c'est vrai.
Oui, mais alors, excuse-moi, tu peux comprendre vers quoi on va. Tu peux être inquiet, mais t'es pas obligé d'être éco-anxieux.
Mais ma fille
est obligée de te dire, tiens, je veux pas faire d'enfant parce que le climat, je suis désolée.
Alors pour le coup, c'est pas du. Enfin, moi, je sais,
j'en ai quatre.
Moi, c'est pas du tout ça. J'en ai fait quatre. Non, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai une fille aînée qui a 20 ans, qui est complètement éco-anxieuse. Elle se dit pas du tout qu'elle va pas faire d'enfant. Mais elle se pose un tas de questions.
Se poser des questions, c'est pas pareil qu'être en dépression.
Alors, elle est pas en dépression. C'est peut-être l'étape juste avant.
Mais serait-ce, je me permets de poser la question, parce que tu es une nouvelle convertie à l'écologie. Cette volonté de vouloir en faire 10 fois trop. Peut-être, je vous pose la question.
Ah bah en faire 10 fois trop, non, parce que j'ai rien changé dans ma manière de faire.
Moi, j'apporterai une nuance.
Juste que j'en parle, c'est tout.
Oui, mais j'apporterai une nuance sur, justement, de dire qu'avoir conscience du dérèglement climatique est une réalité, ça, c'est une évidence. Il n'y a pas de climato-scepticisme. C'est évident. Mais de dire, soit vous êtes inquiet, soit vous vous en foutez. Il y a, on peut apporter une nuance.
Ah bah, évidemment, il y a des degrés, je suis d'accord, Pierrot.
Il y a des gens qui ont confiance en l'avenir, qui ont confiance au projet technique.
Moi, je suis pas éco-anxieuse, mais je suis peut-être le degré
oui,
juste
mais tu
avant.
Tu as dit que si vous n'êtes pas éco-anxieuse, c'est que vous n'avez rien compris.
Ouais, alors, de là à faire des dépressions, peut-être pas, effectivement, ah bah oui. Ah bah mais non, en tout cas, problème. Être alerté. Être... On n'était pas d'accord pareil, sur le terme d'éco-anxieux, je pense. C'était surtout ça.
Bah, et
mais
l'éco-anxiété, c'est.
Vous savez quoi? Je vais organiser un grand week-end Estelle Midi à la maison. Et vous allez venir.
On verra, on verra.
Vous allez venir voir.
Vous êtes tous invités, cher auditeur.
Oui, on verra. Laurent Andrieux, je vous garde là pour dans quelques secondes, oui. Mais il faut absolument qu'on soit avec Marie Desplechin, qui est journaliste et écrivain. Ah. Et c'est Marie Desplechin qui appelle les élèves à faire grève aujourd'hui en faveur du climat. Bonjour Marie.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Pourquoi cette grève, Marie Desplechin?
Bah, c'est une grève qui se fait à la suite de celle que faisait Greta Thunberg. Oui. Elle est partie toute seule, il y a 5 ans, je crois, s'asseoir devant le Parlement de Suède avec sa petite pancarte, grève pour le climat. Et voilà.
Et vous
êtes... disait, ça s'est passé.
Et vous êtes combien, là, Marie Desplechin, parce que vous êtes en direct de la manif?
Ouais, enfin, celle de Paris, parce qu'il y en a dans toutes les villes, oui. En fait, devant les mairies. Oh, on n'est pas très nombreux. On est, je sais pas, j'ai du mal à estimer quelques...
C'est vrai que j'entends peu de bruit. J'entends peu de bruit.
Voilà, c'est ça. Mais en même temps, encore une fois, on a l'habitude d'être minoritaire. Et vous pensez quand elle y est allée toute seule, et ça a donné ce que ça a donné.
Oui, tout à fait, Marie Desplechin. Alors là, on parle de l'éco-anxiété. On sait que les jeunes sont nombreux à être touchés par ce mal, entre guillemets. Et moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que quelque part, c'est pas nous aussi, et nous, journalistes? Alors bien sûr que la planète se dégrade, on est d'accord, et il faut en parler, on est d'accord. Mais est-ce qu'on n'est pas trop inquiétant, justement? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt nous rassurer, essayer en tout cas de rassurer, de donner, je veux dire, des moyens aux jeunes de lutter en faveur de la planète, plutôt que d'inquiéter? De sortir des chiffres et des images assez horribles.
Mais vous n'êtes pas inquiète?
Si, je suis inquiète, je ne suis pas éco-anxieuse.
Vous n'avez pas eu super peur? Moi, quand j'ai compris, il y a un peu plus de 10 ans, quand j'ai lu les rapports et tout, mais moi, j'en ai pas dormi pendant 3 mois.
Ah oui, non, j'en suis pas là.
Ce qu'il faut apprendre, c'est être résilient. Ah bah, c'est assez terrifiant, en fait, si vous regardez dans le détail. Ce qu'il faut, c'est par rapport aux générations qui nous suivent et au devoir d'informer, de présenter aussi, de dire que l'action, c'est ce qu'il y a de mieux contre la dépression et que ce phénomène d'anxiété n'est pas nouveau.
Non mais c'est quoi l'action pour vous? C'est faire grève?
Eh ben il y a mille. Vous pouvez faire grève, vous pouvez faire les marches pour le climat, vous pouvez voter. Les gens ont un bulletin de vote à partir de
10
ans. Vous pouvez discuter, vous pouvez rejoindre des groupes. Il y a des centaines de groupes différents qui réfléchissent, qui ont des tas de moyens d'action différents. Mm-hmm. Donc en fait il y a mille possibilités. On n'est absolument pas tout seul et on n'est absolument pas démunis. C'est ça qu'il faut dire aux jeunes.
Laurent Andrieux.
Oui, moi je suis quand même un peu gêné par ce concept parce que si on, j'ai l'impression qu'on est passé de l'inquiétude légitime à la grande peur de l'an mille en fait.
C'est pas un concept, hein, c'est des gens qui vivent ça dans leur corps.
Oui,
hein,
d'accord,
Laurent,
d'accord.
Hein.
Pardon,
mais vous avez lu les rapports?
Oui, alors
vous
moi. Oui, mais j'ai lu aussi que les rapports du GIEC notamment, ils proposent différents scénarios et que je constate que moi, les scénarios qui sont relayés dans les articles des médias, c'est toujours le scénario catastrophe, celui où tout se passe le plus mal.
Oui, mais je ne sais pas si vous êtes, si vous aviez vu aussi que les scénarios qui étaient proposés il y a 10 ans, ça va plus vite que ce qui était prévu.
Mais on est d'accord, Marie Desplechin, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que, en fait, là aujourd'hui, nos enfants, ils sont terrifiés. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse dans cette terreur et on leur dit, tu sais quoi, écoute, la planète va exploser, t'auras pas de vie. Ou on leur dit, au contraire, essaie d'agir, mais on peut aussi agir avec le sourire, quoi. Enfin, je veux dire, on peut aussi essayer de.
Le sourire tout le temps. Moi, le bouquin que j'ai écrit pour les mômes qui s'appelle Ne change jamais, il est extrêmement drôle. Ah, mais bien sûr, mais j'ai dépassé, on dépasse, la peur, ça se dépasse. Ça se dépasse dans l'action, la réflexion, la rencontre avec des gens. Moi, je suis venue avec une jeune fille qui habite chez moi. Et voilà, on est super contente d'être à deux. On rencontre des gens. J'ai rencontré une Émilie Loiseau qui est venue avec sa fille de 13 ans. C'est extrêmement sympathique.
Ah ben moi, j'aime bien ce discours, vous voyez.
De tout ça.
J'aime bien ce discours et je préfère ça, effectivement. Alors, bien sûr que le discours, il doit être alarmiste. On est tous conscients qu'il se passe quelque chose et que ça ne va pas. Ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut aussi que les jeunes, ils gardent le sourire et ils aient foi en l'avenir. Parce que sinon, quel modèle de société on leur propose? Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Il faut aussi qu'ils aient une jeunesse, quoi. Vous avez pas mal de messages, Alfred, là-dessus.
Oui, j'ai une expérience à partager parce que l'année dernière, j'ai fait un reportage sur ce qu'on appelle les collapsologues. C'est des gens qui sont persuadés, qui épluchent les rapports scientifiques et qui disent disent, voilà, le monde va s'effondrer petit à petit. J'ai rencontré une famille, un papa qui disait, voilà, moi, depuis 2 ans, j'emmène mes gamins en forêt, on apprend à faire du feu, je leur apprends à cultiver pour leur donner les outils d'évoluer dans un monde dégradé. Et ça, je trouvais ça intéressant sur cette transmission, parce que le vrai problème, c'est...
C'est le film Captain Fantastic, en fait.
Oui, non, mais c'est un conflit générationnel. On reçoit un message de Séverine qui est très intéressant, qui dit, mes filles de 21 et 15 ans sont éco-anxieuses, elles ne veulent pas d'enfants, ça me brise le cœur, mais je les comprends. Et je trouve qu'il y a vraiment ce décalage générationnel qui n'arrive pas encore à se relier sur ces expériences-là.
En fait, je pense qu'il y a deux choses sur ce sujet-là. Il y a d'abord la question de l'éco-anxiété qui n'est pas, selon moi, si on répond vraiment à la question, une tendance bobo, mais qui est un fait avéré, en tout cas étayé, sourcé et étudié depuis maintenant plus de 25 ans. Donc ça, c'est vraiment un mal psychologique et un mal-être psychologique. Donc il y a cette éco-anxiété. Et il y a aussi, par rapport à ce que tu as dit, et cette grève pour l'environnement, les moyens d'action qui peuvent avoir les jeunes, et pas non plus uniquement les jeunes, mais tout le monde, pour la cause environnementale. Et c'est vrai que opposer finalement l'action individuelle et la fronde même individuelle et l'opposition individuelle à l'action collective et au discours que vous pouvez présenter comme étant rassuriste d'un point de vue collectif, les opposer, pour moi, c'est vraiment prendre le mauvais chemin.
D'accord.
Il faut véritablement considérer que oui, effectivement, nous devons, à échelle individuelle, faire des efforts.
Mais ça, on est tous d'accord.
Ça, on est tous d'accord. Et il est faux de dire que ça ne sert à rien que je fasse des efforts parce que les Chinois nous représentent 1%. Il faut arrêter ce discours. On doit tous et toutes faire des efforts.
Okay.
Mais maintenant, il faut aussi agir collectivement, agir positivement même. Moi, par exemple, qui suis prof d'économie, c'est vrai que depuis maintenant... un an, et donc c'est peu, j'introduis les notions écologiques et environnementales dans mes notions de théorie économique, parce que c'est aussi une demande des étudiants qui, quand ils posent des questions sur les conséquences de telle ou telle production, il y a des conséquences environnementales. Il faut l'intégrer, il faut l'expliquer, il faut faire preuve de pédagogie et surtout être positif.
Je voulais juste savoir, j'espère que peut-être que le terme existe déjà. Alors, je suis peut-être pas éco-anxieuse, mais je suis éco-vigilante. Ça existe déjà, ça?
On va demander à Marie-Marie.
En tout cas, je l'invente.
Vous allez me demander quoi?
Est-ce que le terme de éco-vigilante pourrait être un terme qui, juste avant éco-anxiété, quoi?
Si ça vous fait plaisir et si ça vous rassure, si ça soigne votre propre éco-anxiété.
Elle est totalement éco-anxieuse. Mais c'est tout récent, on va essayer quand même de la soigner.
Mais si vous êtes éco-anxieux, faites des trucs. C'est très marrant, c'est très sympa. Vous allez vous faire des tas d'amis, vous allez voir les choses différemment. Et en fait, ça va enrichir votre vie. Ça va pas l'appauvrir, ça va vous rendre la vie meilleure. Donc en fait, le moyen contre l'éco-anxiété, c'est y aller. Et même si des fois,
vous êtes
dans les journaux, allez dans le groupe à côté de chez vous, il y en a un tas, je sais pas.
Les groupes de parole dimanche, comme les alcooliques anonymes.
Il n'y a pas des groupes de parole, il y a des groupes d'action absolument partout. Il y a pour les jeunes, il y a Youth for Climate, il y a Friday for Future, il y a des tas de possibilités. Et après, il y a des choses plus informelles. La capacité d'engagement, ça va de 0 à 10 000, en fait. Après, ça peut être dans les métiers aussi.
Je fais des choses, Marie. Je promeux la fresque du climat. Je ne sais pas si vous avez en entendu parler, qui a été lancée par un copain et qui tourne dans tout un tas d'entreprises, dans les médias d'ailleurs. Voilà, je fais quand même des choses.
Vous ne mettez pas en cause.
Tout, de toute façon, on n'est pas là pour se juger.
Oui, voilà.
Il y aura le concours de à qui sera le mieux.
Dans cette forme d'éco-anxiété, cette espèce de hiérarchisation des moyens d'action. C'est-à-dire que, t'as pas fait ça, donc forcément, t'es un écocide.
Moi, j'ai acheté un couvercle.
Faut pas juger.
Oui, faut pas le faire, vous avez raison.
Mais merci Marie Desplechin. Puis moi j'aime bien votre enthousiasme et tout et le fait que fait de dire que il faut se mobiliser en faveur de la planète, mais on peut aussi avoir le sourire et faire ça de manière avec entrain quoi. Enfin moi
de
ça
manière déculpabilisante.
Franchement vous m'avez rassurée Marie Desplechin. Je suis pas très anxieuse. Mais j'aime ça et je trouve ça bien et je trouve qu'aujourd'hui on nous parle d'écologie souvent de manière extrêmement punitive et extrêmement culpabilisante et triste. Et moi j'aime bien cette idée de faire des choses et d'essayer de faire bouger les lignes. Merci Marie Desplechin puis bonne chance pour votre manif.
Merci.
Laurent Andriot.
Oui, moi je pense que malgré tout cette éco-anxiété, elle est pas normale. C'est-à-dire que on devrait pouvoir sensibiliser les gens à un sujet grave sans que pour autant ils n'en dorment pas pendant 3 mois et qu'ils se sentent coupables. Et je pense que la culpabilité, qui est un ressort qui est très 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 utilisé par les médias et par les lobbies sur ce sujet-là et pas un bon ressort. Moi, ça m'amuse parce que par ailleurs, c'est un truc qu'on a très longtemps reproché au catholicisme. On disait, ah, le catholicisme, c'est mal parce que ça culpabilise les gens. Alors après, ils sont mal dans leur peau. Et pourquoi les écologistes, ça les gêne pas du tout de culpabiliser les gens et les mettre dans leur
peau. Mais attends, l'écologie, ça concerne tout le monde et on peut faire des efforts. Le catholicisme, après, c'est un choix. Tu vois ce que je veux dire? Là, je pense qu'on a plus le choix.
Non, mais c'était un parallèle. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est totalement contre-productif. Enfin, c'est marrant parce que je lisais un article sur le sujet ce matin et un psychiatre qui disait qu'il recevait plusieurs personnes par an dans son cabinet qui venaient le consulter pour éco-anxiété. Et lui, ça le rendait fou furieux parce qu'il dit, en fait, on est passé de l'inquiétude à une sorte d'hystérie collective. Et même, il parlait de fantasme mortifère. Je pense qu'il a parfaitement raison.
Alors, on est avec Romain qui nous appelle d'Orléans. Bonjour, Romain.
Bonjour à tous.
Bonjour. Romain, est-ce que vous êtes éco-anxieux?
Alors, éco-anxieux, le terme, il peut être un petit peu décuplé. Mais disons que oui, depuis cet été, puis même depuis un peu avant déjà, oui, je commence à m'apercevoir, de toute façon, il y a un problème au niveau du climat. Alors après, est-ce que c'est réchauffement, dérèglement, peu importe. Mais la question est que oui, il se passe quelque chose. Et je pense que oui, nous, notre génération, que ce soit les années 80, 90 et les années futures, on a en droit de se poser des questions sur le futur qui nous est réservé.
Bien sûr.
Et je pense que oui, ça commence à être inquiétant. Et oui, moi, ça m'inquiète. Je veux dire, il y a un problème. Je ne sais pas dans quel état la planète sera dans le futur. Et oui, je pense que de toute façon, c'est clair et net. Ça... Des gens, oui, deviennent éco-anxieux. Alors après, est-ce que moi, je suis éco-anxieux? Non. Mais oui, j'ai peur. Quelque part, j'ai peur et je me demande dans quel futur je vais évoluer.
Mais elle se traduit comment, cette peur, Romain? Est-ce que, par exemple, là, vous m'avez l'air très jeune, mais est-ce que vous vous dites, j'ai pas envie d'avoir d'enfants pour pas leur, pour pas qu'ils vivent sur cette planète, justement?
Oui, on m'a posé la question au standard. Donc, bon, déjà, moi, la question d'avoir un enfant, elle est toujours en réflexion, mais j'ai jamais. Enfin, voulu en avoir potentiellement, j'aimerais en avoir, mais comme j'aimerais ne pas en avoir non plus, donc la question n'est pas tranchée. Mais effectivement, avec tout ce qui se passe, j'ai tendance à me poser la question, est-ce que c'est bien judicieux de faire un enfant dans le futur qui nous est réservé?
La question vous êtes quand même éco-anxieux, parce que quand on se pose la question, c'est déjà être inquiet quand même.
C'est pas la seule raison. Il y a quand même que si on doit faire la liste de toutes les merdes qui se passent dans le monde, de tout ce qui va nous tomber dessus dans le futur.
Il y a le week-end là.
Je peux vous dire que le climat, c'est une partie du problème. Et puis, alors, je tiens à souligner également, ce que j'entends, voilà, c'est vrai que on pourrait croire que c'est une tendance bobo-gauchiste ou des citadins. Je ne suis pas citadin.
Oui.
Voilà, je vis à la campagne.
Bravo.
Est-ce que vous êtes gauchiste?
j'ai voté Marine Le Pen. Voilà.
Ah oui, donc ça n'a rien à voir. Oui.
Donc ça n'a rien
pas
à
très
voir.
Gauchiste.
Mais oui, non, je pense que la question est légitime. On a droit vraiment d'avoir peur parce que ce qu'on entend tous les boomers, tous les vieux de l'ancienne génération disent mais c'est pas grave, de toute façon la Terre elle est vouée à avoir des règlements climatiques.
Ouais, il y en a de moins en moins.
Moi dans mon entourage, des vieux qui pensent comme ça, qu'ont des pensées arriérées, il y en a plein. Et quand ça peut être gonflant, parce que eux ils ont fait une partie de leur vie elle est proche du but. Voilà.
Oui, non, on ne peut pas dire de quelqu'un qui est âgé, leur vie est proche du but, comme si le but ultime c'était.
Constate,
non,
c'est
leur
un
vie
fait,
est plus proche de la fin du début, mais.
Bien sûr,
mais
là, il parle des boomers.
Constat,
c'est constate simplement que ceux qui.
Excusez-moi, mais c'est affreux.
C'est affreux, on est d'accord. Mais c'est un constat, il n'y a aucune critique ou aucune stigmatisation. On constate simplement qu'un jeune de 20 ans aujourd'hui a plus de chances de voir la planète Terre en 2050 qu'une personne de 90 ans.
Merci pour ces stats, ça doit être une étude suédoise. Merci en tout cas à Romain d'avoir été avec nous. Maxime nous appelle d'Evreux dans l'Or, il est ouvrier dans l'automobile. Bonjour Maxime.
Tout à fait, c'est moi. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Bonjour. Vous avez quel âge Maxime?
J'ai 40 ans.
D'accord, donc vous êtes dans la force de l'âge. Vous êtes éco-anxieux ou pas du tout Maxime?
Alors, c'est pas que je suis pas éco-anxieux, c'est juste que de mon point de vue, je pense que si on arrêtait un petit peu de nous matraquer dans les médias, que tout allait mal, qu'on allait forcément mourir parce que si on continue à rouler avec notre voiture diesel, on est un criminel et qu'il faut surtout acheter une voiture électrique qui n'est pas du tout écologique.
Ouais, bah, qu'il l'est quand même.
Non, qu'il l'est pas du tout. Il a raison.
Non, il a raison. Ne ressortez pas les batteries, là encore.
C'est vrai.
Une voiture électrique, c'est pas du tout écologique, Estelle.
Bon,
c'est
une
fumisterie. Enfin, bref,
on est. Bon, et voilà. Passons à un autre exemple. Allez.
Mais moi, j'ai pas attendu qu'on me dise que la planète allait brûler dans les médias tous les jours, on va dire une dizaine d'heures par jour.
Oui, mais on a quand même connu, Maxime, un été caniculaire. On ne peut pas le nier, ça.
Mais oui, mais les étés caniculaires dans les années 70, il y en avait aussi.
Non, il y en a eu un en 76. Après, il y a eu la canicule de 2003. Mais Maxime, moi, je comprends ce que vous dites. Et on va dire, il y a quelques semaines, quelques mois, j'aurais pas été loin de partager votre point de vue. Sauf que aujourd'hui, le fait que les médias matraquent fait qu'on prend aussi conscience des choses. Alors effectivement, faut pas tomber dans l'éco-anxiété peut-être non plus. Mais on apprend des choses, voilà, qu'il faut. Évidemment, on sait bien que se chauffer à 25, c'est pas bien. Mais qu'on nous donne des petits chiffres comme ça, qu'on nous dise qu'il faut débrancher les appareils électroménagers, qu'il faut éviter de faire sa lessive entre 18 et 20 heures, qu'il faut chauffer à 18.
Ça, pour moi, c'est juste du bon sens. On n'a pas besoin de faire la longueur de journée.
Ouais, mais voilà, qu'il vaut mieux faire chauffer l'eau dans une bouilloire avant de la mettre.
Je peux juste reprendre là-dessus.
J'ai un autre exemple sur ça. C'est comme pendant le Covid, on nous a quand même appris à nous laver les mains.
Sauf que l'année d'après, il n'y a pas eu de gastro. Les gens se sont lavés les mains.
Aussi parce qu'on portait des masques ou parce que des trucs comme ça.
Mais
ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, j'ai pas attendu qu'on me matraque toute la journée sur l'écologie et tout ça pour avoir des points chez moi. Pour diminuer mes déchets.
Votre consommation énergétique.
Ouais, j'ai pas besoin de tout ça, en fait.
Mais il y a des gens qui en ont besoin.
Je reprends vis-à-vis de justement ce concept d'éco-anxiété, d'action individuelle, et c'est vrai que le gouvernement nous bassine en permanence et depuis l'été caniculaire à faire des petits gestes comme éteindre son modem ou ne pas faire chauffer ses quatre plaques quand on fait la cuisine. Oui, alors effectivement, d'abord, Maxime a raison, c'est du bon sens de ne pas allumer d'un coup ces machines.
T'as jamais fait chauffer tes quatre plaques avant ?
Non, j'ai jamais fait chauffer mes quatre plaques.
Maintenant, moi, je regarde, mais avant, ça m'arrivait.
Ce discours est compréhensible et audible, je dis pas le contraire. Simplement, là, c'est plus vis-à-vis du gouvernement et je vais tenir un discours politique.
Vas-y.
Dire ça, c'est aussi mettre sous la table ou sous le tapis des actions collectives et globales qu'ils auraient pu entreprendre depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Je rappelle que
Mais c'est compliqué pour un particulier de construire une centrale nucléaire.
Nous sommes d'accord.
C'est plus simple de mettre un couvercle sur ta casserole.
Le rapport de Rome qui prévenait des risques du réchauffement climatique date de 1976. Oui. Autrement dit, ça fait depuis 1976 qu'on sait que ça va arriver. Qu'ont fait les gouvernements depuis 1976
oui,
rien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent ? Éteignez le modem. Je suis désolé.
Mais tu peux aussi éteindre ton modem, c'est pas antinomique.
Très bien. Mais que ça vienne d'un discours politique et gouvernemental à dire « Ok, nous, on n'a pas agi, on n'a pas trop agi pour le climat, mais ce qu'il faut faire, c'est vous particulier, vous allez éteindre le modem pour sauver les choses, ou alors, on a entendu, supprimer ses mails. » Voilà.
Et par ailleurs, sauvé. Et par ailleurs, ce décalage générationnel dont on a parlé, il n'est pas uniquement générationnel, c'est aussi un produit du discours qui est matraqué à l'école. Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants en bas âge, ils me disent c'est de la propagande non-stop. Ils ont leur bourre le crâne toute la journée.
De quoi? De leur apprendre à trier les déchets? C'est
non,
de la propagande non-stop?
Effectivement, la planète.
On leur apprend. Attends, moi j'ai des enfants, j'en ai 4, ils sont passés en maternelle. On leur a appris à éteindre le robinet quand ils se brossent les dents. Résultat, c'est moi qui me fais engueuler quand je l'éteins pas. On leur a appris à trier les déchets. Quand je me trompe dans le tri des déchets, c'est encore moi qui me fais disputer. On leur apprend des gestes de base. Je trouve pas que ce soit de la propagande.
Non, je suis désolé. Il y a aussi une mesure. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand c'est toute la journée, quand c'est obsessionnel, devient anxiogène.
C'est pas vrai. Non, mais c'est de faire attention aux enfants. Enfin, moi, j'ai deux enfants qui étaient à l'école, mais franchement, c'est aussi la notion des emballages, de faire attention à ce qu'on consomme, etc. Enfin, moi, je trouve pas ça idiot, Laurent.
C'est une question de mesure. Là, on est vraiment
idéologique quand on sait que la planète, d'après tous les rapports et tous les études scientifiques, la planète se réchauffe. Et c'est pas de l'idéologie, parce que l'idéologie, c'est croire en quelque chose qui n'est pas étayé ou théorisé. Là, c'est clair, c'est une réalité. La planète se réchauffe.
Alors, je voudrais qu'on termine avec Sylvain, qui nous appelle de l'Aveyron, très très belle région. Sylvain, il est agriculteur. Alors, vous n'avez pas beaucoup de temps, Sylvain, parce qu'évidemment, on est très en retard, hein, bien sûr. Mais j'avais quand même envie d'entendre votre point de vue, Sylvain.
Oui, bonjour. Ben moi, du coup, je suis très inquiet, en fait, parce que je me dis que si l'année prochaine est la même que celle de cette année, nous, c'est fini, quoi. Nous, on a eu de la chance d'avoir du stock l'an dernier, mais le réchauffement climatique, il est là, quoi. Ça fait... Avant, mon père, il avait une année sèche tous les 20 ans. Nous, c'est sur les 10 dernières années, c'est 8 ans où c'est ça. Un bordel, quoi. Donc en fait, c'est pas du tout rassurant. Après, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour bien éteindre le modem, mais je suis pas sûr que ça suffise.
Non.
Et donc voilà, c'est inquiétant. Enfin, moi, j'ai très peur pour l'avenir. Mais je pense que je suis pas tout seul. En agriculteur, on le voit au jour le jour, quoi.
C'est ça, parce que vous faites un métier qui est évidemment directement impacté par ce dérèglement climatique. Est-ce que cette éco-anxiété, je posais la question à un autre auditeur tout à l'heure, mais est-ce que ça peut influer sur votre désir d'enfant, Sylvain, parce que vous m'avez l'air très jeune aussi.
Oui. Bah, en fait, moi, j'en ai deux. D'accord. À la base, on en voulait trois. Et là, le deuxième a déjà 3 ans. On s'est dit, si on en fait un autre, c'est maintenant. Et en fait, on se pose énormément de questions. On sait pas, en fait. On aimerait, parce que deux, voilà, on se dit qu'on en voulait trois, mais on sait pas. C'est ça. Et à cause de ça, en fait, il me tarde de savoir comment sera l'année prochaine pour voir si c'est vraiment foutu, en gros.
Mais malheureusement, c'est pas, même si l'année prochaine, ça va bien, rien ne vous dit que l'année d'après et l'année d'après.
Non, mais c'est pas parce que l'année prochaine, ça va mal que c'est foutu non plus, voilà. Mm. Ou pas non plus.
Ouais, mais de moi, dans mon métier, si, parce qu'en fait, j'ai du stock de l'an dernier, mais j'en aurai pas l'an prochain, c'est fou. Enfin, je suis même pas sûr de finir l'hiver avec le stock que j'ai, quoi. Et donc, et je me dis, mes enfants, j'aimerais qu'ils puissent faire mon métier, mais en fait, si c'est de pire en pire comme ça, pourquoi faire des gosses pour qu'ils en chient autant, par exemple? Enfin, voilà, c'est pas.
Non, mais merci beaucoup pour ce témoignage, Sylvain, parce que je trouve ça très touchant. Et puis c'est vrai que Sylvain, ouais, il est agriculteur, et évidemment, il y a des métiers qui sont plus durement touchés que
d'autres. Mais moi, sur le désir d'enfant, moi, je voudrais quand même rappeler un truc, c'est qu'il y a eu un rebond de natalité en France en 1942. 42, on avait des raisons de se dire la situation du monde n'est pas extrêmement brillante, on ne sait pas très bien où on va. Bah, les gens ont foi en l'avenir, et finalement, les enfants qu'ils ont fait à cette époque-là ont eu une belle vie.
Bah oui.
Et on va.
Une glorieuse.
En tout cas, oui, aussi. Ah oui, on va remercier. Pas, voilà. Je suis pas sûr
le pire n'est pas toujours sûr.
Une glorieuse, c'est
ça veut dire que le pire n'est pas toujours sûr.
Oui, bah, oui, bon, voilà, on le voit quand même bien se profiler. En tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. L'éco-anxiété, c'est le mal du siècle ou une tendance bobo, Alfred Orange?
Bah, à 73%, vous répondez que c'est une tendance bobo, à 27%, le mal du siècle.
Ah bon,
un message pour juste dédramatiser, qui vient de Jean, qui dit: moi, j'ai une fille de 9 ans, ma petite Inès, et j'espère qu'elle me fera beaucoup de petits-enfants. Arrêtons de vivre dans la peur de tout. Voilà, bravo.
Allez, dans un instant, RMC s'engage pour vous et Johanna Chabas qui tentera d'aider Marina. Elle est médecin argentine. Elle n'arrive pas à exercer en France. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h33, vous êtes sur RMC et c'est le moment d'RMC s'engage pour vous. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et aujourd'hui, c'est Johanna Chabas qui est avec nous. Et comme tous les vendredis, Johanna, vous nous donnez des nouvelles d'auditeurs que vous avez aidés. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une auditrice. Elle s'appelle Marina. Elle était médecin argentine. Elle n'arrivait pas à faire reconnaître son diplôme en France. On en est où?
Eh bien, Marina, elle est arrivée ici il y a 7 ans. Elle a suivi un Français avec lequel elle a fait sa vie. Il s'installe dans le Vaucluse, en plein désert médical. Mmh. Elle obtient la nationalité française. Mais pour pouvoir exercer, le diplôme de Marina doit être reconnu par le Centre National de Gestion, le CNG. L'année dernière, elle envoie tous les documents demandés. Mais quand on la rencontre au mois d'avril, elle n'a aucune nouvelle de son dossier.
Ça fait un an que j'attends, je n'ai pas de réponse, je n'ai même pas un numéro de dossier pour suivre les sujets. Que ce soit positif ou négatif, je voudrais une réponse parce que je ne sais plus quoi faire. Moi, je voudrais pouvoir exercer la profession pour laquelle j'ai passé au moins 14 ans à l'université, pour laquelle je m'ai préparé presque la moitié de ma vie en fait.
Alors à l'époque, vous aviez appelé le CNG qui nous avait promis de revenir vers Marina rapidement. Alors est-ce que l'engagement a été tenu?
Eh bien malheureusement non.
Bah, quelle surprise.
5 mois plus tard, elle n'a toujours aucune nouvelle, non. Pas un coup de fil, pas un mail. Et sauf que le temps presse, en attendant de pouvoir exercer en tant que médecin, Marina est employée comme assistante médicale dans le cabinet d'un généraliste de 67 ans. Il aimerait bien prendre sa retraite avant la fin de l'année et confier ses patients à Marina. Mais si rien ne bouge d'ici là, le cabinet devra mettre la clé sous la porte.
La solution était la venue de Marina. La solution est là, à portée de la main, et pour des raisons absolument incompréhensibles, les autorités ne réagissent pas. Je suis très très inquiet. Je dors mal pour l'avenir de mes patients, et aucun de mes confrères ne prend de nouveaux patients. Donc mes 2000 patients seraient dans l'impasse pour le suivi médical. Et il faut comprendre qu'en tant que médecin généraliste attaché à ses patients depuis toutes ces années, c'est quelque chose de très très douloureux. Voilà.
Et bien sûr, on entend l'inquiétude de ce médecin qui gère 2000 patients. C'est absolument énorme. Alors, je vous connais, Johanna. Et j'imagine que vous avez relancé le Centre National de Gestion.
Évidemment.
C'est peut-être un malheureux oubli.
Voilà, on va se dire ça. Donc, du coup, on les a rappelés en début de semaine pour leur demander. Et là, miracle. En 24 heures, le CNG est revenu vers nous. Ils nous ont promis, cette fois-ci, d'accélérer le traitement du dossier de Marina et de l'appeler dans la semaine.
Oui.
Mais bon, on est vendredi, 14h30 et des brouettes. Mmh. Elle n'a toujours pas de nouvelles.
Mais non.
Ils ne l'ont toujours pas appelée. On va leur laisser le bénéfice du doute.
Non.
On va leur dire que peut-être c'est dans l'après-midi qu'ils vont appeler la Marina.
Ils avaient 5 mois pour l'appeler, ils ne l'ont pas appelée. Là, ils devaient l'appeler aujourd'hui, ils ne l'appellent pas. Il n'y a plus de bénéfice du doute, en fait.
Voilà. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les appeler chaque semaine jusqu'à ce qu'ils donnent des nouvelles à Marina.
Oh, peut-être pas le vendredi, ils doivent être en week-end. Mais non, mais c'est hallucinant quand même. Vous avez une ville. Là, voilà, il y a une dame qui est médecin, qui pourrait exercer, une ville qui a besoin de médecins, qui a un désert médical, et juste parce qu'ils ne rappellent pas. Il y a une ville qui est privée de médecins, c'est 2000 patients, mais c'est hallucinant.
2000 patients, une secrétaire médicale aussi qui va se retrouver au chômage si le cabinet ferme. Enfin, ça a des vraies conséquences. Et pour l'instant, le CNG reste silencieux près de Marina.
Mais on va les harceler. Là, non mais voilà, il faut pas, c'est, le harcèlement, c'est pas bien, sauf quand il s'agit du CNG. Et on va les harceler, comme la SNCF d'ailleurs, que nous harcelons pour notre affaire de mercredi. Voilà. Nous essayons d'obtenir 290 euros pour une auditrice qui a eu indûment une amende. On en est où?
Eh bien, toujours en attente de la SNCF, hein, mais on a une petite liste de personnes à appeler assez régulièrement.
Bah, faites le CNG, faites la SNCF et on va être bien. Merci beaucoup, Johanna Chabas. Tous les vendredis, on vous rappelle les cas d'auditeurs qu'on a aidés. RMC s'engage pour vous. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez un souci, un problème, eh bien, vous nous écrivez, vous n'hésitez pas à rmcpourvous@rmc.fr. Et Johanna, Amélie et toutes les équipes d'RMC vous aideront. Merci beaucoup. Johanna, dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Bah, tiens, on va reparler de François Hollande. Mais qui a pris une position très très ferme de la part de l'ancien président de la République. On parlera du chiffre du jour et puis de la promotion du jour, l'État qui va vendre des PlayStation. Mais oui, et oui, on vous explique tout ça dans un instant.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Dans cette dernière partie, on vous donne toutes les infos qu'il ne fallait surtout pas rater aujourd'hui. Ce sont les immanquables.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et Alfred Orange, nous allons commencer avec la confession du jour.
Oui, elle sort de la bouche de François Hollande. L'ancien président de la République était invité à s'exprimer hier sur la thématique sport et diplomatie lors du festival Demain le Sport. Et il s'est exprimé sur la Coupe du Monde au Qatar. Si j'étais chef de l'État, mais je ne le suis plus, donc ma position est facile, je ne me rendrai pas au Qatar. Il a justifié ce choix en dénonçant les conditions de déroulement de cette compétition et les enjeux climatiques autour de la construction des stades, notamment.
Dites-nous, c'est une position très forte, hein, là, quand même.
C'est courageux, Il faut bien distinguer, parce que c'est un dossier que j'ai beaucoup étudié, et d'ailleurs, je suis de...
D'ailleurs, vous êtes sur tous les médias,
pour parler de cette question du boycott, le boycott diplomatique, politique, sportif et médiatique, citoyen, si je puis dire. François Hollande, vous l'avez dit, a une posture très facile, puisqu'effectivement, il n'est plus président, donc il peut se permettre de parler en disant qu'il n'ira pas au mondial, pour des raisons totalement justifiables, hein, le fait de ne pas respecter les droits des travailleurs, les droits de l'environnement.
Ça aurait été plus subversif s'il avait dit qu'il y allait.
Et pour soutenir la condition des travailleurs au Qatar. Mais François Hollande, rappelons-le, en 2015, a voté, et en tout cas accordé, les contrats qui lient aujourd'hui pour le mondial qatari, les contrats de sécurité entre 220 entreprises françaises et le pays Qatar. Donc, c'est lui qui était à l'origine, justement, de cette négociation qui a eu lieu entre les entreprises françaises chargées de la sécurité et les organisateurs du mondial qatari. Donc, c'est très facile d'appeler un boycott politique, alors qu'il est la même personne qui, en 2015, a favorisé des contrats et des collaborations économiques entre le Qatar et la France.
Oui, parce que je n'ai pas entendu se mobiliser contre le Qatar au niveau de...
D'autant plus que je fais bien le distinguo entre boycott politique, diplomatique et citoyen, qu'on peut parfaitement défendre le boycott citoyen, mais le boycott politique, il a bon dos, d'autant plus que la France, et donc François Hollande qui a été président, la France et le Qatar, c'est entre 10 et 15 milliards d'euros d'investissement par an et de relations économiques. Donc c'est très facile de dire je ne suis plus président, je n'irai pas.
C'est quand même une bonne chose pour vous, Emmanuel Dancourt, qui dit ça. C'est un ancien président de la République ou c'est très démago?
Depuis quand il est crédible?
Honnêtement, il a été président de la République, vous pouvez pas lui enlever cette crédibilité.
Ouais, si. Si. Moi, je trouve, je l'ai jamais trouvé crédible cet homme-là. Je supporte pas ce genre de récupération. Je trouve ça insupportable. En plus, j'écoute Pierre, je découvre les infos que tu nous donnes, et sans doute avec beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs qui découvrent aussi, les bras m'en tombent. Donc voilà, je trouve. Après, moi, je vais boycotter.
Après, il a répondu à une question. Il n'allait pas dire joker.
Non, mais bien sûr. Ok, il a répondu à une question,
beaucoup,
mais
et beaucoup d'ailleurs sur RMC, beaucoup sur RMC comme Thibault Leplat ou Daniel Riolo précisent les choses.
Ils n'ont pas été présents dans la République. Enfin, non, mais Daniel le sera peut-être un jour.
Justement, François Hollande, en tant que maintenant citoyen, puisque maintenant il se présente comme étant citoyen. Il aurait pu dire, comme Thibault Leplat, comme Daniel Riolo, je regarderai ce mondial et je participerai à ce mondial pour justement faire changer les choses. Il y a aussi un autre point de vue de dire, comme je reconnais le manquement aux droits de l'homme, j'y vais pour faire bouger les choses.
Qu'il utilise son aura, au moins, pour cette fameuse aura qu'il aurait.
Laurent Andrieux, ça vous fait plaisir d'avoir des nouvelles de François Hollande?
Déjà, moi j'avais beaucoup de mal à m'intéresser à ce qu'il disait quand il était lui président. Alors maintenant, encore plus. Après, je suis un peu attristé d'être plutôt d'accord avec sa position, que je pense qu'effectivement il serait bien qu'on ne s'y rende pas.
Attention, t'es d'accord avec Jordan Bardella, ouais. Et t'es d'accord avec François Hollande, fais gaffe.
Je suis complètement dans le même temps.
Il est apolitique.
Juste lucide.
Non, mais ça veut dire quoi, qu'on n'y aille pas, c'est qui on?
Les autorités françaises.
Ah oui, pas les joueurs.
Non, Oui, mais Laurent, parce que, et j'imagine, à raison, tu reconnais, on le constate toutes et tous, le manquement aux droits de l'environnement, aux droits LGBT, aux droits des travailleurs, aux droits de l'homme, c'est une évidence. Et donc, peut-être toi, en tant que citoyen, tu ne regarderas pas le mondial.
Ça, je ne vais pas faire un gros sacrifice, ça ne va pas beaucoup me manquer.
Si tu veux,
si
beaucoup de gens font ce geste, effectivement, le mondial peut faire un flop et ça peut s'avérer être accéléré.
Et ça n'arrivera jamais, tu le sais très bien.
Peut-être, en tout cas, on peut se poser la question en tant que citoyen. Le boycott politique, en tant que président, ne pas y aller, à quoi ça sert?
Oui. Non, mais ça sert d'autant à rien, si je puis dire, effectivement, que de toute façon, c'est l'État français, effectivement, a été à sa part de responsabilité dans le choix du Qatar. Donc là, effectivement, je mea culpa.
La promotion du jour.
Oui, elle vient de l'État. L'État va vendre un produit presque introuvable aujourd'hui sur le marché, des PlayStation. Deux PlayStation 5 vont être mises en vente aux enchères le 4 et 5 octobre prochain. Des PS5 saisies, confisquées par la justice. Prix de départ 400 euros, c'est 150 euros de moins que le prix actuel. Ces consoles, elles sont très rares parce qu'il y a, c'est frappé Sony notamment qui les produit, et frappé de plein fouet par la pénurie des composants électroniques. Mais attention, si vous comptez vous rendre à ces enchères dont l'accès est libre, le risque, c'est qu'à la fin des enchères, ça reviennent beaucoup plus chers, mais les bénéfices, sachez-le, serviront à indemniser les victimes et à financer des travaux d'intérêt général pour des détenus.
Donc c'est pour la bonne cause, mais on les trouve où, ces PlayStation?
Alors à Lyon et à Marseille.
Mais je veux dire, il faut se rendre.
Il faut se rendre physiquement, et on peut aller participer dans la salle de vente.
Les enchères, ça fonctionne par internet et par téléphone aussi, mais.
Là, on parle de consoles qui effectivement sont introuvables et qui coûtent donc 550 euros prix de marché. Il suffit simplement de participer aux enchères et d'attendre qu'on atteigne ce prix. Une fois qu'on l'a atteint, on arrête. Il n'y aura pas d'arnaque.
Mais ça vous fait marrer, ça, Laurent Andrieux, de voir que l'État vend des PlayStation. Alors, ils vendent aussi des mobilettes,
des Maserati. Bugatti.
Tout ce qui a été saisi.
Effectivement, du coup, l'État, c'est un véritable souk. On y trouve de tout.
Il faut savoir que chaque fois qu'il y a des saisies, des arrestations, du trafic de drogue ou autre, et du grand banditisme, l'État récupère ses biens et les revend.
Alors, ils ne revendent pas la drogue. Attention quand même.
Ils avaient dû voler des PlayStation, en l'occurrence, et donc elles sont revendues. Mais effectivement, on vend aussi leurs véhicules et tout.
Des jeux.
Attention, quand il y a des saisies de drogue, l'État ne revend pas la drogue. Je tiens quand même à préciser.
Mais enfin, c'est beaucoup plus dissuasif.
Un manque à gagner.
C'est plus dissuasif quand on t'enlève ta voiture que parfois une amende ou une
porte-clés. Ou de la saisie.
Quand c'est une Maserati, c'est très dissuasif, finalement.
C'est ça.
Le chiffre du jour.
48. Comme le nombre de personnes interpellées soupçonnées d'avoir démarré des feux en France cet été. Parmi elles, 12 ont déjà été condamnées. Ce qui interpelle d'abord les gendarmes, ce sont les profils très variés. Ça va du mineur au retraité. Ils sont issus de tous les milieux sociaux. Il y a quand même un point commun, ce sont souvent des hommes. Enfin, ce qui interroge aussi, ce sont les peines. La peine la plus lourde prononcée, c'est 2 ans de prison contre un jeune homme coupable d'avoir commis plusieurs départs de feu en Gironde. Ça paraît presque peu quand on voit le dégât et la détresse des gens sur place cet été.
Bah surtout qu'il sortira au bout de 6 mois, donc
moins de 2 ans, c'est même pas forcément incarcéré. Mmh.
Oui, c'est moins ça, peut-être même un bracelet électronique. Ouais. Ça vous choque justement que la peine en tout cas maximale qui a été prononcée soit 2 ans pour vous, Emmanuel Dancourt.
Ça me choquerait dans le sens où c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup?
Non, c'est pas beaucoup.
Alors d'abord, je voudrais saluer le boulot des enquêteurs qui arrivent à remonter la piste de ces personnes-là. Je me dis, mais comment on arrive à trouver des pyromanes, à trouver 48? Je suis épatée par le boulot qu'ils ont fait. Je m'interroge sur le fait que ce soit principalement des hommes. J'aimerais savoir pourquoi. Et après, sur la peine de prison, ce qui me choque plutôt, 2 ans, c'est déjà pas mal quand même. 2 ans en prison, faut les faire, mais que ce soit pas fait.
Avec bracelet, mais tu te rends compte, ça détruit la vie de combien de personnes?
Eh ben, c'est ça. Surtout quand il y a des morts, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence de jugement quand il y a des morts et des blessés que quand il y a du dégât matériel?
Vous savez, le dégât matériel, quand quelqu'un perd tout dans l'incendie de sa maison et quand c'est une personne retraitée qui a perdu toutes ses photos, tous ses souvenirs.
Et puis surtout, quel suivi on a de ces gens-là? Parce que souvent, c'est des récidivistes. Donc, quel suivi on a de ces gens-là? Ça, c'est une vraie question. Et comme toujours, on en arrive aux moyens de la police qui ne sont jamais assez conséquents.
Enfin, là, a priori, il y a forcément une obligation de soins.
Tu rigoles? Sur les violences sexistes et sexuelles, on n'arrive déjà pas à suivre ceux qui sont dénoncés par leurs femmes. Alors, t'imagines sur la pyromanie.
Il va y avoir une obligation. Beaucoup de gens qui sont condamnés pour violences faites aux femmes et qui, une fois qu'ils ont purgé leur peine, sont pas surveillés, peuvent parfaitement recommencer. Donc c'est vrai, se pose la question du suivi. Derrière, on parle de 2 ans. Ok, admettons qu'il l'efface, qu'il aille en prison, bracelet, peu importe. La question du pas assez, trop court, elle se pose, vous avez raison. Mais ensuite, admettons qu'ils font ces 2 ans, soit. Et après, est-ce qu'on aura les moyens de les surveiller, de les suivre?
Jamais.
Aujourd'hui, on
s'étonne. Les fichiers S, on les suit pas déjà.
Déjà, voilà. Donc, on s'étonne du profil, on s'interroge sur le profil. Alors, déjà, d'un point de vue strictement intellectuel, ça peut être très intéressant d'avoir cette étude psychologique, sociologique, sur qui sont ces pyromanes. Quel est le mobile? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont commis? Pourquoi que des hommes ou essentiellement des hommes? Ça peut être très intéressant et très certainement il y aura des...
C'est un travail qui est en cours. Hein.
Oui. Voilà, qui est en cours. Voilà. Et ensuite, la suite, parce qu'on parle de dérèglement climatique, on sait que les canicules vont s'augmenter, s'accélérer dans les prochaines années. Si on libère ces pyromanes en puissance, en 2030-2035,
Mais ce qui est fou, c'est que en fait, là pour le coup, la justice a été rapide. Laurent Dandrieu, on critique souvent la lenteur de la justice. Là, ça n'a pas été le cas. On est encore dans l'émotion de ces incendies. Enfin, les images elles étaient dramatiques cet été. On a tous vu ça. On était effarés. On était extrêmement attristés. Et finalement, je veux dire qu'il y a pas d'émotion dans cette peine, quoi. C'est-à-dire que l'émotion n'a pas compté, quoi.
Non, mais le problème, effectivement, c'est que la sanction soit une vraie sanction et que des gens fassent effectivement de la prison, sinon on reste dans le symbole, quoi. Mmh. Et donc ça, mais après, la question du après la libération, et après la peine de prison, elle est malheureusement relativement insoluble, parce que je pense qu'effectivement, même si on les oblige à un suivi psychiatrique, si effectivement c'est issu d'un comportement qui est issu de névrose, c'est une très bonne chose qu'il y ait un suivi psychiatrique, mais voilà, c'est pas pour autant qu'il y aura une espèce de guérison automatique et garantie sur facture. Donc,
Allez, on va rejoindre Vincent Moscato, le super Moscato Show, le dernier de la semaine. Salut Vincent.
Comment ça va, Estelle?
Vincent?
Oui, sous-entend.
Je suis là,
c'est la régie.
T'es là.
Comment ça va, Estelle?
Bien, et toi?
Impeccable. On va faire, après les adieux de la reine, les adieux à Federer. Oui, la Lever Cup, il s'en va. Il fait. Ouais, non, mais il est pas loin.
La petite mort
sportive, bien entendu.
Bien sûr.
Il fait ses adieux, c'est avec un double, avec Nadal. Est-ce qu'on aurait. On aurait aimé qu'il finisse à Wimbledon, à Roland Garros, tout ça. Et puis, je sais pas si t'as vu le match hier contre.
Si.
Mbappé me met un tir au PSG, vous avez vu, quand on me donne des bons ballons et tout ça. Et il envoie du bois.
Il arrête.
Et puis,
pas,
Giroud regagne-t-il des parts dans le cœur de Didier Deschamps?
Mais bien sûr.
Ah, voilà.
Quel but hier.
Le but, là, pam, un coup de béret. Un gros coup de béret, pam, but. Oh, c'est extraordinaire.
Extraordinaire. C'est bien.
Il joue bien. C'est un bon joueur. Je pense qu'on peut dire que c'est un bon joueur.
J'espère que ça. La Coupe du Monde.
On peut le dire, ouais.
Et puis il est beau, et puis alors c'est pas si on te l'a déjà dit, il est beau comme un navigateur.
Ouais, c'est ça. Allez. Et bien, bon week-end. Bonne émission.
Alors, bon, les navigateurs boivent, sait, mais là, il est beau comme un navigateur.
Voilà, c'est
Estelle,
ça.
Je t'embrasse, je te souhaite un bon week-end.
Oui.
Et puis à bientôt, à lundi.
Bonne émission, Vincent Moscato, le super Moscato Show, c'est tout de suite. Et nous, on se retrouve demain. Demain, je serai un peu seule. On se retrouve lundi, midi, 15h, dans Estelle Midi. Bon week-end à tous, salut.
RMC, 15h-18h, le Super Moscato Show.